Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette émission, je suis venue vous lire sur Jet FM. Alors aujourd'hui, je vous amène en balade, on va prendre l'air. On part à la découverte de jardins. Jardin d'automne ou jardin d'hiver, petit jardin, jardin de banlieue, jardin de simple, jardin suspendu de Babylone ou jardin des mille et une nuits. Il en existe tellement des jardins, de toute taille, de toute forme, aux couleurs changeantes selon les saisons. Alors si vous êtes prêts pour cette balade, on part ensemble en Italie, dans le jardin des Finzi Contini. Ce fut Nicole qui voulut me montrer le jardin. Elle y tenait. Je dirais même que j'en ai un peu le droit, avait-elle ricané en me regardant. Ce fut ainsi que commencèrent nos vagabondages à deux. Les premières fois, nous prenions nos vélos. Le vélo était indispensable, d'après elle, si je voulais me faire une idée assez nette de l'ensemble. Le jardin était d'une bonne dizaine d'hectares et les allées, grandes et petites, occupaient dans leur ensemble une demi-douzaine de kilomètres. Mais à part cela, sans vélo, il ne serait absolument pas possible de pousser, par exemple, jusque là-bas, au fond, du côté du couchant, là où Alberto et elle, quand ils étaient enfants, allaient très souvent voir les trains qui manœuvraient en gare. Nicole avait insisté pour que nous prenions à gauche, par un sentier sinueux qui longeait le périmètre tout entier du mur d'enceinte. D'abord, du côté du rempart des Anges, si bien qu'en un quart d'heure, nous avions atteint de nouveau la partie du parc d'où l'on voyait la gare. Avec quelques variantes de parcours, ces explorations à grands rayons se répétèrent 3 ou 4 fois les après-midi suivants. Lorsque la largeur des allées et des sentiers le permettait, nous pédalions côte à côte. Moi, je tenais souvent mon guidon d'une seule main, appuyant l'autre sur celui de la bicyclette de Nicole. Tout en roulant, nous parlions. Nous parlions surtout d'arbres, au moins au début. Je ne savais rien ou presque en cette matière. Et cela ne cessait jamais d'étonner Nicole. Elle me regardait comme si j'étais un monstre. « Se peut-il que tu sois si ignorant ?» s'exclamait-elle continuellement. « Tu as tout de même dû faire un peu de botanique au lycée. » « Voyons, » demandait-elle ensuite, se préparant déjà à arquer ses sourcils devant quelque nouvelle énormité. « Pourrais-je savoir, s'il vous plaît, quel genre d'arbre vous pensez que peut bien être celui-là, là-bas » « Oh là, il pouvait s'agir de tout, d'honnêtes ormes ou de tilleuls de chez nous, comme de rarissimes arbres exotiques, africains, asiatiques ou américains, que seul un spécialiste eût été capable d'identifier. » Moi, en tout cas, je répondais toujours au hasard, un peu parce que je n'étais vraiment pas capable de distinguer un orme d'un tilleul, et un peu aussi parce que je m'étais aperçue que rien ne faisait autant plaisir à Nicole que de m'entendre me tromper. Il lui semblait absurde à elle qu'existât en ce monde quelqu'un comme moi qui ne nourrit pour les arbres les mêmes sentiments d'admiration passionnée qu'elle. Comment pouvais-je ne pas comprendre ? Comment pouvais-je vivre sans sentir ? Par exemple, il y avait au fond de la clairière, à l'ouest, par rapport au cours de tennis, un groupe de 7 minces et très hauts palmiers du désert, isolés du reste de la végétation. Eh bien, à chaque fois qu'à bicyclette nous passions de leur côté, Nicole avait toujours pour ce groupe de solitaires de nouvelles paroles de tendresse. « Ah, les voici là, mes 7 vieillards !» disait-elle. « Regarde les vénérables barbes qu'ils ont !»« Sérieusement, » insistait-elle. « Ah, quelle élégance, quelle sainteté dans leurs troncs bruns, secs, voûtés, écailleux !»« Ah, vraiment, pour moi, ils ressemblaient plus à des jambes de Saint-Baptiste, nourries seulement de sauterelles. » Mais ces sympathies n'étaient nullement circonscrites aux arbres exotiques. Elles allaient aux palmiers de diverses espèces, producteurs de petits tubercules difformes, plein d'une pulpe à la saveur de miel, aux agaves, en forme de candélabres, qui, m'expliquait-elle, fleurissent une seule fois tous les 20-25 ans et puis meurent. En ce qui concerne les eucalyptus, du reste, elle ne me dit jamais pourquoi, elle avait une sorte d'étrange méfiance, comme si entre elle et eux, quelque chose de peu agréable se fût passé au cours de lointaines années. quelque chose sur quoi il ne fallait pas revenir. Pour un platane énorme, au tronc blanchâtre et noueux, plus gros que celui de n'importe quel autre arbre du jardin, et, je crois bien, de la province tout entière, son admiration confinait le respect. Naturellement, ce n'était pas sa grand-mère Josette qui l'avait planté. Mais, qui sait, peut-être Hercule Ier d'Est en personne, ou bien Lucrèce Borgia. Tu comprends ? Ce platane a presque 500 ans, murmurait-elle en écarquillant les yeux. Pense un peu à toutes les choses qu'il a dû voir depuis qu'il est venu au monde. Et l'on eût dit que lui aussi, ce gros animal, ce gigantesque platane, avait des yeux pour nous voir et des oreilles pour nous écouter. Le jardin a continuellement suscité l'intérêt des voyageurs, des romanciers, des poètes, des cinéastes, lieu culturel par excellence. Le jardin est source de mythes, d'inspiration, de mystères. Alors partons ensemble à la découverte du jardin des mille et une nuits. Je me promettais bien de ne pas oublier l'avis important qu'elle m'avait donné, de ne pas ouvrir la porte d'or. Mais, comme à cela près, il m'était permis de satisfaire ma curiosité, je pris la première des clés des autres portes qui étaient rangées par ordre. Première porte. Et j'entrai dans un jardin fruitier auquel je crois que dans l'univers il n'y en a point qui soit comparable. Je ne pense pas même que celui que notre religion nous promet, après la mort, puisse le surpasser. La symétrie, la propreté, la disposition admirable des arbres, l'abondance et la diversité des fruits de 1000 espèces inconnues, avec leur fraîcheur, leur beauté, tout ravissait ma vue. Je ne dois pas négliger de vous faire remarquer que ce jardin délicieux était arrosé d'une manière fort singulière. Des rigoles, creusées avec art et proportion, portaient de l'eau abondamment à la racine des arbres qui en avaient besoin pour faire pousser leurs premières feuilles et leurs fleurs. D'autres, dont le fruit avait acquis une grosseur convenable, n'attendaient plus que la maturité. Mais cette grosseur surpassait de beaucoup celle des fruits ordinaires de nos jardins. Les autres rigoles, qui aboutissaient aux arbres dont le fruit était mûr, n'avaient d'humidité que ce qui était nécessaire pour le conserver dans le même état sans le corrompre. Je ne pouvais me lasser d'examiner et d'admirer ce si beau lieu. Et je n'en serais jamais sortie si je n'eusse pas conçu dès lors une plus grande idée des autres choses que je n'avais point vues. J'en sortis l'esprit rempli de ces merveilles. Je fermai la porte et j'ouvris celle qui suivait. Au lieu d'un jardin de fruits, j'en trouvai un de fleurs, qui n'était pas moins singulier dans son genre. Il renfermait un parterre spacieux, arrosé non pas avec la même profusion que le précédent, mais avec un plus grand ménagement, pour ne pas fournir plus d'eau que chaque fleur n'en avait besoin. La rose, le jasmin, la violette, le narcisse, l'anémone, la tulipe, la renoncule, l'œillet, le lys et une infinité d'autres plantes qui ne fleurissaient ailleurs qu'en différents temps. Se trouvaient là, toutes fleuries à la fois. Et rien n'était plus doux que l'air qu'on respirait dans ce jardin. J'ouvris la troisième porte. Je trouvai une volière très vaste. Elle était pavée de marbre de plusieurs sortes de couleurs, du plus fin, du moins commun. La cage était de santal et de bois d'aloès. Elle renfermait une infinité de rossignols, de chardonnerets, de serins, d'alouettes et d'autres oiseaux encore plus harmonieux dont je n'avais jamais entendu parler de ma vie. Les vases, où étaient leurs grains et leurs eaux, étaient de jaspe ou d'agate, la plus précieuse. D'ailleurs, cette volière était d'une grande propreté. À voir son étendue, je jugeais qu'il ne fallait pas moins de 100 personnes pour la tenir aussi nette qu'elle était. Personne, toutefois, n'y paraissait. Non plus que dans les jardins où j'avais été, dans lequel je n'avais pas remarqué une mauvaise herbe ni la moindre superfluité qui m'eût blessé la vue. Le soleil était déjà couché et je me retirais charmé du ramage de cette multitude d'oiseaux qui cherchaient alors à se percher dans l'endroit le plus commode pour jouir du repos de la nuit. Je me rendis à mon appartement, résolu d'ouvrir les autres portes les jours suivants, à l'exception de la centième. Après l'Orient, nous partons pour l'Asie du Sud, en Inde, pour découvrir un jardin où il pousse ces fameuses Kanakambaram, ou appelées plus simplement fleurs pétards. Ces fleurs sont oranges et elles sont tressées dans la chevelure des femmes avec les fleurs blanches du jasmin. Mon père avait un petit terrain sur lequel il faisait en alternance différentes plantations. Des arachides, des piments et une fois par an du riz. Mais il en réservait toujours une passerelle au Kanakambaram et c'était ma mère et moi qui nous en occupions. Dans la lumière de l'aube, nous étions accueillis par une profusion de fleurs qui paraissaient avoir capté dans leurs pétales les nuances du soleil levant. Avant que l'humidité ne s'évapore au soleil, réduisant les fleurs à n'être que des pâles copies d'elles-mêmes, nous les ramassions. Nous cueillions deux fleurs et en laissions une troisième sur la tige pour qu'elle donne des graines. Nous en gardions quelques-unes pour nous et vendions le reste aux marchands de fleurs à l'entrée du temple. Mon père faisait-il pousser les Kanakambaram parce que c'était le prénom de ma mère ? Me demandai-je. J'aurais préféré que tu m'appelles Roja ou Shempakam, m'écriai-je un jour vexé à la pensée qu'un champ entier de fleurs, d'un orange délicat, rendait un hommage quotidien à ma mère, alors que moi, je n'avais rien. Si je m'étais appelée Roja, j'aurais eu un champ de roses, comme maman, qui a son champ de fleurs. Mais je m'appelle Marikolantou, et un Marikolantou n'est qu'un épi de feuilles vertes, non ? Oh, mon père éclata de rire et m'attira sur ses genoux. « Petite bécasse !» me dit-il en me cajolant. « Tu te demandes ce qu'est un Marikolantou ? N'as-tu pas remarqué que dans chaque guirlande de Kanakambara, on tresse quelques feuilles de Marikolantou ? Sans le parfum du Marikolantou, la Kanakambaram est une fleur morte. Alors si ça peut te faire plaisir, nous en planterons à la saison prochaine. »
Maga da mani da maga, madani za 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 ni da ni 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 za.
C'est beau un jardin qui ne pense pas encore aux hommes, disait Jean Anouilh. Voici un texte que beaucoup reconnaîtront. Il décrit un jardin abandonné, le jardin de la rue Plumet, le refuge idéal pour Jean Valjean et Cosette. Ce jardin, ainsi livré à lui-même depuis plus d'un demi-siècle, était devenu extraordinaire et charmant. Les passants d'il y a 40 ans s'arrêtaient dans cette rue pour le contempler, sans se douter des secrets qu'il dérobait derrière ses épaisseurs fraîches et vertes. Plus d'un songeur à cette époque a laissé bien des fois ses yeux et sa pensée pénétrer indiscrètement à travers les barreaux de l'antique grille cadenassée, tordue, branlante, scellée à deux piliers verdis et moussus, bizarrement couronnée d'un fronton d'arabesque indéchiffrable. Il y avait un banc de pierre dans un coin, une ou deux statues moisies, quelques triages décloués par le temps, pourrissant sur le mur, du reste plus d'allées ni de gazon, du chien-dent partout. Le jardinage était parti et la nature était revenue. Les mauvaises herbes abandonnées, aventure admirable pour un coin de terre. La fête des giroflées y était splendide. Rien dans ce jardin ne contrariait l'effort sacré des choses vers la vie. La croissance vénérable était là chez elle. Les arbres s'étaient baissés vers les ronces. Les ronces étaient montées vers les arbres. La plante avait grimpé, la branche avait fléchi. Ce qui rampe sur la terre avait trouvé ce qui s'épanouit dans l'air. Ce qui flotte au vent s'était penché vers ce qui se traîne dans la mousse. Troncs, rameaux, feuilles, fibres, touffes, vrilles, sarments, épines, tout s'était mêlé, traversé, marié, confondu. La végétation, dans un embrassement étroit et profond, avait célébré et accompli là, sous l'œil satisfait du Créateur, en cet enclos de 300 pieds carrés, le saint mystère de sa fraternité, symbole de la fraternité humaine. Ce jardin n'était plus un jardin, c'était une broussaille colossale. C'est-à-dire quelque chose qui est impénétrable comme une forêt, peuplé comme une ville, frissonnant comme un nid, sombre comme une cathédrale, odorant comme un bouquet, solitaire comme une tombe et vivant, vivant comme une foule. On quitte Paris. Et en quittant Paris, on commence à apercevoir par la vitre du train des petits jardins, des jardins ouvriers, des jardins de banlieue. Je m'en rappelle, disait Boris Vian, on vivait là, en banlieue. En banlieue, des trains, des remblais et des gares. Et puis, on y est sans crier gare en banlieue. On quitte Paris dans la suie. Et voilà les maisons fleuries de banlieue. L'été, il y a des lilas qui chantent sur des rythmes de valse lente. C'est ça, la banlieue. Les petits jardins bien astiqués. Les petits rentiers tout étriqués. Les petites filles en robe de piqué. Et les petites rues mal indiquées. Ben, c'est la banlieue. Tout près de Paris, dans la verdure. Oh, ma chérie, pourvu que ça dure, ma banlieue. Je me rappelle, on était tout môme. Tu vois, on vivait par là. Sens-tu le rosier qui embaume? Et les narcisses et les dahlias. C'est là, on pouvait pousser la barrière, on se croyait si loin de tout. Et la maison était pleine de lierre, et il y avait des oiseaux partout. Quelle était belle ma banlieue.
Il perd un jardin par semaine, mon petit coin là-bas, près de la Seine. Il perd chaque mois une friture, il y gagne quoi? La blessure d'une maison de 20 étages où l'on mettra les hommes en cage avant c'était pas la même chose avant j'y découvrais des choses j'y emmenais dans mon petit coin de paradis. C'était ma Corse, mon midi, mes lauriers roses en Italie. Il perd ses lilas par centaines, mon petit coin là-bas, près de la Seine. Il perd ses Chinois, ses Arabes, et tous ces vieux toits et ces arbres. Le soir, on dirait l'Amérique, avec ses buildings fantastiques. Avant, c'était pas la même chose. Avant, j'y découvrais des choses. J'y emmenais Lulu et Rose dans mon petit coin de paradis. C'était ma Corse, mon midi, mes lauriers roses en Italie. Et j'ai peur, des fois quand j'y pense, qu'un beau jour tu sois sans défense, que tu perdes aussi l'innocence de tes grands yeux gris, que tu changes, que tu maquilles ton visage à tous les néons de passage. Je voudrais que tu restes la même chose, qu'on s'aime avant toute chose. Même sans lilas et sans rose, toi qui remplaces mon paradis. Et puis ma Corse, mon midi, mes lauriers roses en Italie.
Un jardinier qui sabote une pelouse est un assassin en herbe, disait Raymond Devos. Même si j'avais un jardin, tout un prêt de trèfle à quatre feuilles, je n'aurais pas plus de chance que d'en avoir un avec une seule feuille. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Alors oublions le trèfle, l'herbe, la pelouse, et parlons plutôt de fleurs et de jardins secrets. Homme, tu as regardé la plus triste, la plus morne de toutes les fleurs de la terre. Et comme aux autres fleurs, tu lui as donné un nom, tu l'as appelé pensée. Pensée, c'était comme on dit bien observé, bien pensé. Et ces sales fleurs qui ne vivent ni se fanent jamais, tu les as appelées immortelles. C'était bien fait pour elles. Mais le lilas, tu l'as appelé lilas. Lilas, c'est tout à fait ça, lilas, lilas. Aux marguerites, tu as donné un nom de femme. Ou bien aux femmes, tu as donné un nom de fleur, c'est pareil. L'essentiel, c'était que ça soit joli, que ça fasse plaisir. Enfin, tu as donné les noms simples à toutes les fleurs simples. Et la plus grande, la plus belle, celle qui pousse toute droite sur le fumier de la misère, celle qui se dresse à côté des vieux ressorts rouillés, à côté des vieux chiens mouillés, à côté des vieux matelas éventrés, à côté des baraques de planches où vivent les sous-alimentés. Cette fleur, tellement vivante, toute jaune, toute brillante, celle que les savants appellent héliante, toi, tu l'as appelée soleil. Soleil, hélas. Hélas, hélas, et beaucoup de fois hélas. Qui regarde le soleil? Hein? Qui regarde le soleil? Personne ne regarde plus le soleil. Les hommes sont devenus ce qu'ils sont devenus. Des hommes intelligents. Une fleur cancéreuse, tubéreuse et méticuleuse à leur boutonnière. Ils se promènent en regardant par terre. Et ils pensent au ciel. Ils pensent, ah, ils pensent, ils n'arrêtent pas de penser. Ils ne peuvent plus aimer les véritables fleurs vivantes. Ils aiment les fleurs fanées, les fleurs séchées, les immortelles et les pensées. Et ils marchent dans la boue des souvenirs, dans la boue des regrets. Ils se traînent, à grande peine, dans les marécages du passé. Et ils traînent leurs chaînes, et ils traînent les pieds au pas cadencé. Ils avancent à grande peine, enlisés dans leurs Champs-Élysées. Et ils chantent à tue-tête, la chanson mortuaire. Oui, ils chantent à tue-tête, mais tout ce qui est mort dans leur tête, pour rien au monde, ils ne voudraient l'enlever. Parce que, dans leur tête, pousse la fleur sacrée, la sale maigre petite fleur, la fleur malade, la fleur aigre, la fleur toujours fanée, la fleur personnelle, la pensée.
Le myosotis et puis la rose, ce sont des fleurs qui disent quelque chose. Mais pour aimer les coquelicots et n'aimer que ça, faut être idiot. T'as peut-être raison, oui, mais voilà, quand je t'aurai dit, tu comprendras. La première fois que je l'ai vue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu d'un champ de blé. Et sous le corsage blanc, là où battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille. Il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer les coquelicots. T'as peut-être raison, seulement voilà, quand je l'ai prise dans mes bras, elle m'a donné son beau sourire. Et puis après, sans rien nous dire, dans la lumière de l'été, on s'est aimé, on s'est aimé. Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revue, elle dormait à moitié nue dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisait comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
Depuis 1938, une famille, les Likov, avait choisi de vivre en ermite au fin fond de la taïga, pour fuir les pressions de la société et vivre en accord avec leurs convictions. Sans contact avec d'autres humains, ils n'ont pas eu connaissance de la Deuxième Guerre mondiale. Les restrictions qu'ils se sont imposées, leur mode de vie archaïque, allié aux rigueurs d'une nature sauvage et d'un climat très rigoureux, ont rendu leur survie héroïque. Ce sont des géologues prospecteurs qui les ont découverts dans les années 80 seulement. Cette expérience hors du commun est raconté dans un récit palpitant, « Ermite dans la taïga » de Vassili Peskov. Leur jardin a été leur seule ressource, leur seule richesse. Le jardin, un morceau de montagne arraché à la taïga, il a nourri la famille toutes ces années durant. Pour prévenir les traîtrises des étés montagnards, un autre jardin avait été défriché en aval, au bord de la rivière. Si la récolte se faisait mauvaise en haut, on ramassait quelque chose en bas. Le jardin donnait de la pomme de terre, du navet, de l'oignon, des pois, du chanvre et du seigle. Les graines provenaient de l'ancien domaine, aujourd'hui avalé par la taïga, apportées 46 ans auparavant comme des pierres précieuses, avec la même précaution que le fer et les livres religieux. Jamais aucune culture en ce demi-siècle ne les a lâchées par dégénérescence, chacune leur donnant nourriture et semences. Des semences, inutile d'expliquer pourquoi, ils les préservaient comme la prunelle de leurs yeux. Ironie du sort, la pomme de terre qui fut importée d'Europe par Pierre le Grand et que les vieux croyants rejetèrent au même titre que le thé et le tabac, car c'était pour eux une plante démoniaque de perdition. Toutefois, cette pomme de terre a constitué de longues années durant leur nourriture de base. On la conservait dans une cave garnie de rondins de bois et d'écorces de bouleau. Mais de récolte en récolte, les réserves se révélaient insuffisantes. Les neiges de juin, en montagne, pouvaient avoir des effets catastrophiques sur le jardin. Il fallait à tout prix une réserve stratégique de 2 ans. Bien qu'aucune cave, même bonne, ne conservât les pommes de terre pendant 2 ans. Les Likov avaient appris à faire des réserves de pommes de terre séchées. Ils les découpaient en lamelles fines qu'ils exposaient au soleil. L'espace libre de la masure était toujours occupé par des baquets de pommes de terre séchées, qu'on plaçait aussi dans des garde-manger, en rondins de bois montés sur des hautes perches. Il y avait des saisons de disette. Oh oui, 1961 aura été une année terrible pour les Likov. La neige de juin, accompagnée d'un gel assez violent, emporta toutes les cultures. Le seigle succomba à la froidure et les pommes de terre n'y survécurent que pour garnir le stock de semences. La nourriture forestière en souffrit aussi beaucoup. L'hiver avala vite les réserves de la récolte précédente. Au printemps, les Likov mangèrent de la paille, des chaussures de cuir, la peau des skis, l'écorce et les germes des bouleaux. Des réserves de pois, ils ne gardèrent qu'un récipient de semences. Heureusement, la récolte suivante fut bonne. La pomme de terre monta bien et sur le carré de pois perça, par hasard, un unique épi de seigle. On le dorlota nuit et jour, après avoir installé une protection spéciale contre les rongeurs. Une fois mûr, l'épi donna 18 grains. Cette récolte fut enveloppée dans un chiffon sec, rangé dans un mini-seau spécial, plus petit qu'une timbale, roulé dans une feuille d'écorce, puis suspendu au mur. Les 18 grains donnèrent environ une assiette de céréales. Mais les Likov ne firent leur première bouillie de seigle qu'à la 4e saison.
Hey! cielo, che come si rognino. Sano, si schiedi a manzetto, richiedi a crescerò, te come smiro ogni no.
La différence entre un jardin et un désert, ce n'est pas l'eau, c'est l'homme, disait un Touareg. Voici un texte de Marie-France Gaucher. Un voyage du nord au sud, de l'est à l'ouest. Au sud. J'ai vu vers le sud des jardins plantés de cris, des jardins rouges où des bombes ouvrent de grands bassins, où flottent des poissons perdus. Des regards aussi écarquillés qu'une fleur au jardin des supplices, corps coquelicots, butinés par des essaims d'abeilles, migrants d'un bout à l'autre de l'Afrique. Mais ne m'attends pas là. À l'est, j'ai vu vers l'est des jardins plantés de silence. Des hommes y forcent d'étranges fleurs femelles qui poussent sans soleil, dans des cages barbelées de bleu, d'ocre ou de noir. Elles jaillissent craintives de la boue des ruelles, de cette poussière qui habille les ruines ou dans la violence éblouie d'un stade, jardin mâle d'Afghanistan. Mais ne m'attends pas là. À l'ouest, j'ai vu vers l'ouest des jardins plantés d'opulence, beaux jusqu'à la nausée. Il y pousse des monstres, des fleurs toxicomanes, perfusées à l'enfance, aussi seules que des bêtes de concours et si sottes, si tristes. Des fleurs qui ne savent plus qu'elles sont des fleurs et qui revendiquent encore, malgré tout, leur exclusivité avec le ciel. Des fleurs qui parlent si fort qu'elles n'entendent plus rien du jardin. Mais ne m'attends pas là. Au nord, j'ai vu vers le nord des jardins plantés d'anges. Jardins blancs, si lents qu'il faut des millénaires aux fleurs pour dire leur parfum. Il y neige des âmes, des sagesses froides de temps, des résonances d'univers à naître, et tout ça tombe comme une bonne nouvelle dans l'esprit des bêtes du pôle. Mais ne m'attends pas là. Ici, j'ai vu ici des jardins plantés d'indigence, royaumes moribonds en voie d'évanouissement, jardins de gueux où ricanent l'ortie, le riz, la menthe et ce blé toujours vert. Il pleut sur ces jardins des averses de sueur, un jus aussi acide que le champ de l'oseille. Mains d'ouvriers, mains jardinières à planter. Modestes, ces fleurs qui nourrissent le monde. Là-bas, et puis, on me dit que bientôt du désert surgira la guerre, paysagiste du chaos. Je sais son goût pour les plantes qui tuent, pour les folies dressées entre rouille et cailloux. Elle va semer ses graines dans toutes les poitrines. Là-bas, bientôt des gazons d'hommes morts, des parterres d'enfants plantés trop serrés pour survivre, la plainte haut perchée sur sa tige d'amour. Des femmes, au visage de tournesol, le cœur comme un derviche tournoyant. Beau jardin des misères, jamais laissé en friche, où pleuvront des oranges peut-être. Des agents jardiniers trop aveugles pour ne faucher que la vénéneuse plante, celle qui rampe, voluptueuse, dans l'esprit tourbeux de quelques dictateurs et d'une brassée d'hommes amateurs de fleurs mortes. Mais ne m'attends pas là.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre l'acier et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour. Et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée. Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître? Où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison toutes portes ouvertes que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la, la la.
Alors je pense à ce jardin de l'homme qui porte un nom d'arbre. Ses racines ont ligoté mes pas, mon obsession d'errance, ses cruautés d'horloge qui précipitent les chutes. Son feuillage apaise la soif. Là, des roses ouvrent leurs arènes où bat le pouls de notre amour. Elles tanguent, pourpres jusqu'au soir, et leur langue aussi frivole qu'un parfum est la seule que je veuille apprendre. Là est mon jardin, ce jardin sans chagrin, loin des jardins du monde. C'est là que je t'espère, c'est là que je t'attends.
Je connais un pays, on dirait un jardin. Je peux y vivre nu, sans avoir jamais froid. Quand je ferme les yeux, j'y trouve sous mes doigts tous les chemins. J'ai le fond de tes yeux pour y chercher de l'or. La couleur de ta peau pour lire les saisons, le creux de ton épaule pour ligne d'horizon, et tout autour de moi tes bras font le décor au pays de ton corps, au pays de ton corps, au pays de ton corps. La la la. La la la. vu des prodiges et de plus grands mystères que l'été en décembre ou que la neige en mai. À ce qu'il me semble, plus je le connais, plus je m'y perds. Et s'il mesure à peine 1m80, j'y fais plus de chemin avec un seul baiser qu'un enfant dans le ciel. Les hommes et leurs fusées, c'est un pays où l'on voyage avec les mains. Le pays de ton corps, le pays de ton corps, le pays de ton corps. La la la.
Alors, comme nous sommes en automne, peut-être avez-vous vu dans les jardins voler des fils blancs. On les appelle les fils de la Vierge. En réalité, ce sont les araignées sortant de leur cocon. Elles utilisent ce mode de locomotion pour migrer. Attachées à leurs longs fils comme un cerf-volant, elles comptent sur le vent pour les emporter un peu plus loin. Puis, elles abandonnent le fil derrière elles. De tout temps, ces guirlandes dans les buissons ont nourri l'imaginaire des hommes. L'automne adorait le front des forêts. Sur les coteaux, les vignes nourrissent les raisins. Et, dans la vallée, les cimes des grands peupliers font trembler leurs feuilles, comme des sequins d'or, et montent leurs branches dénudées, pareilles à des mâtures sans voile. Les soirs ont des crépuscules d'ombre, diaphanes, et, dans les matins blêmes, il semble qu'on voit danser les dames blanches le long des ruisseaux. Les grands ramiers, ces pigeons sauvages, dorment dans les sapins noirs. Les hirondelles virent une fois encore vers leur nid, le long du vieux clocher. Dans l'air, on voit parfois volter des fils blancs. Ils tournoient ou tombent tout droit, ou bien ils s'accrochent aux branches des arbres, aux herbes des prés, aux dernières fleurettes au bord des sentiers, aux brindilles qui traînent, aux ajoncs des bois. Ce sont les fils de la Vierge. On dirait une vaste résille couvrant le front du sol déjà froid. Mais que sont-ils vraiment, ces fils si blancs? Ils nous tombent du ciel en dansant un peu, au gré de la brise, et puis s'en vont, on ne sait où. Parfois ici, là, là-bas, plus loin encore. Les vieilles gens les contemplent avec des yeux mélancoliques. Il semble à ces grands-pères et grands-mères que ce sont des fils coupés au dernier beau jour de leur vie. Car les revendent-ils encore une fois, l'an prochain, ces fils de la Vierge? D'autres gens, quelques pauvres attristés, les regardent en pensant que, s'ils étaient en laine, ils pourraient en faire un bon tricot cet hiver. Les enfants leur sourient et courent après. Courez, petits, courez bien vite, attrapez le joli fil et tenez-le un peu dans vos menottes. Hélas, il est déjà cassé. Fil de la Vierge, illusion, illusion d'enfant.
Le vent fera craquer les branches, la brume viendra dans sa robe blanche. Il y aura des feuilles partout couchées sur les cailloux. Octobre tiendra sa revanche. Le soleil sortira à peine, nos corps se cacheront sous des bouts de laine. Perdu dans tes foulards, tu croiseras le soir octobre endormi aux fontaines. Il y aura certainement sur les tables en fer blanc quelques vases vides et qui traînent. Et des nuages pris aux antennes. J'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On ira tout en haut des collines Regardez tout ce qu'octobre illumine. Mes mains sur tes cheveux, des écharpes pour deux devant le monde qui s'incline. Quelques hommes qui se souviennent, et des nuages pris sur les antennes. Je t'offrirai des fleurs et des nappes en couleur pour ne pas qu'octobre nous prenne. On verra apparaître quelques dessins sur la baie des fenêtres. Vous vous jouerez dehors comme les enfants du Nord. Octobre restera peut-être. Octobre restera peut-être.
Notre émission Je suis venue vous lire se termine. Nous vous retrouverons la semaine prochaine sur JTFM. À la technique et à la programmation musicale, Michel Yordanov. À la lecture et à la réalisation, Corinne Tardieu. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur la page de l'émission sur www.jet-asso.fr. Bonne écoute sur JetFM.